Aurélien Bélanger, une conclusion sur À voix nue, l'émission de France Culture.
Mon unique rêve quand j'avais 20 ans, c'était d'enregistrer un jour un À voix nue. Tout ce que je faisais dans la vie tendait à cela. Je voulais ressortir un jour d'une voix chevrotante à travers les ouïes parallèles d'un radio-réveil et résonner contre les murs de la chambre d'une cité universitaire. C'était un excellent radio-réveil. Il avait servi pendant 10 ans d'épouvantail dans le potager de mon grand-père et il m'a accompagné malgré des traces de terre jusqu'à l'année dernière, transpercé à intervalles réguliers par les voix déclinantes des testaments sonores des grands témoins de notre temps, comme des coups de bêche contre l'indifférence du temps. L'élégance voulait, pour moi, qu'on meure aussitôt son à voix nue enregistrée, plus que la Légion d'honneur ou que l'Académie française, la voix nue posthume comme distinction suprême. J'avais ainsi, à 20 ans, une conception de la vie très simple. Je devais accomplir de grandes choses pour pouvoir être interviewé un jour, mais comme je n'avais à tenir que 5 fois une demi-heure, une quantité d'événements restreinte suffisait. La publication en NRF, mais sans la guerre d'Espagne, une œuvre de poète sans la déportation, le prix Nobel de littérature sans même avoir à le refuser. Il m'est aussi resté de ces années de formation radiophonique l'idée qu'il y avait deux types d'écrivains sérieux en France. Ceux qui avaient longtemps hésité entre le roman et la philosophie, ce qui me convenait parfaitement, j'étais étudiant en licence, et ceux qui avaient collaboré avec leurs amis peintres autour d'une monographie quelconque et raffinée, ce qui m'arrangeait moins alors. Je ne connaissais aucun peintre et tous ceux qui restaient avaient l'air terriblement âgés. Les peintres, en ces toutes fins de XXe siècle, jouissaient pour moi d'un crédit moral illimité. Il s'agissait alors essentiellement de mémoire, je me souviens de Fromanger, de vétérans de la figuration narrative des années 60. Aucune idée de la raison pour laquelle ça me plaisait autant. Je n'avais pas internet et aucun moyen de savoir, de voir ce qu'ils peignaient. Mais j'aimais, je crois, cette façon qu'ont les peintres de donner à leur vie ce caractère héroïque que leur envie toujours leurs contemporains. Sans doute parce qu'ils sont les derniers à toucher un peu à la chimie du monde dans une société industrielle standardisée qui tolère tout juste, comme un dernier élément d'entropie, le désordre anachronique de leurs ateliers. Un bon écrivain est par ailleurs un bourgeois cossu qui laisse ses petits-enfants jouer dans son bureau pour imiter Victor Hugo, quand un peintre se doit d'avoir des vêtements tachés, des mains un peu sales et des maîtresses, évidemment, qu'il appelle ses modèles. Enfin, c'est comme cela que je me représentais les choses en 2000. La première chose que j'ai fait, évidemment, en arrivant à Paris, ça a donc été de me trouver un ami peintre. Ça m'a pris presque 2 ans, mais j'y ai réussi, malgré une petite maladresse initiale. Les amitiés entre peintres et écrivains sont marqués, on le sait, depuis la célèbre brouille entre Zola et Cézanne, par la susceptibilité des peintres. La première fois qu'il m'a invité chez lui, à la chapelle, je lui avais offert, j'étais ému comme si j'allais chez Caravage, une version contemporaine de la corbeille de fruits du jeune Bacchus, en pensant qu'il ferait aussitôt une nature morte de cette belle composition de fruits et de légumes en plastique aligné d'une dinette, aux couleurs rehaussées par les reflets d'un couvercle transparent, le genre d'effet que les peintres adorent faire en peinture pour suggérer d'un même coup de pinceau le volume et la brillance. D'ailleurs, je reste certain que c'était une bonne idée, même si vexé, il avait peu apprécié mon cadeau. Pourquoi tout le monde croit que les peintres n'ont pas d'idée de sujet, m'avait-il dit. Un point pour lui. Mais j'aimerais, après 15 ans, nous remettre à égalité. Tout cela m'est revenu précisément l'autre jour en remontant la Seine au lendemain d'un jour de neige. On ne distinguait sur le ciel gris que les coups de pinceau dorés du pont Alexandre III et contre les trottoirs, ces petits rayons de neige accumulés qui prêtaient au monde une asphyxiante fraîcheur de cellophane. C'était presque aussi beau que mes légumes. Le vainqueur de cette dispute esthétique sera cependant, nous le savons tous les deux, celui qui survivra à l'autre. L'histoire est écrite par ceux qui enregistrent un à voix nue.
Bon, mais si vous voulez, peut-être que je pourrais faire en sorte que vous enregistriez un à voix nue dans 25 ans. Je recueillerai vos souvenirs.
L'unique question, c'est quelle est la personne la plus jeune à avoir jamais fait un à voix nue.
Bon, écoutez, on cherchera...